Ici Jean Amrouche qui vous parle de Genève.
En 1949, au micro de Jean Amrouche.
Mais vous-même, puisque vous venez de parler de l'affaire Dreyfus, avez-vous pris position à cette époque-là?
L'écrivain André Gide.
Très vite, et les tout premiers, pour cette raison que je connaissais assez intimement, Léon Blum, qui avait été mon camarade de classe à Henri IV, et qui me tint au courant, je me revois encore descendant la rue du Bac à pied, et Blum racontant l'affaire Zola, en me demandant justement si je consentais à prendre position, et je le fis aussitôt dans enthousiasme. Il n'y a pas moyen de résister à cela.
À partir du mois de janvier 1898, l'affaire Dreyfus a déchiré la France en deux, avec une violence inouïe, et elle a profondément marqué Léon Blum.
Monsieur Blum, vite, lisez ça. C'est un article de Zola dans l'Aurore.
C'est l'événement majeur de sa jeunesse. Se mettre au service d'un homme injustement condamné. Ce combat Dreyfusard va devenir l'antichambre de son entrée en politique.
Le président Léon Blum vous parle.
Il y a quelque chose qui ne me manquera jamais. C'est la résolution, c'est le courage et c'est la fidélité.
Non.
Alfred Dreyfus.
Parlez plus fort.
Alfred Dreyfus.
Le capitaine Dreyfus, juif alsacien, accusé à tort d'espionnage au profit de l'Allemagne, fut au cœur d'une affaire qui incarne un tournant majeur dans la vie politique française. Une rupture profonde entre deux visions de la France. D'un côté, les réactionnaires.
C'est Dreyfus.
Pour qui seul compte la mère patrie et l'honneur de son armée. De l'autre.
Ce n'est pas Dreyfus.
Des intellectuels éclairés, conscients qu'il s'agit d'une question d'ordre moral. Le respect de la justice et la dignité de la République.
Soldats ! On dégrade un innocent !
Dans ce nouvel épisode, vous allez comprendre comment cette affaire Dreyfus provoque soudain chez Léon Blum une prise de conscience.
Mes chers amis, je vous prie de considérer que la France entière, en ce moment, vous écoute.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Léon Blum, une vie héroïque. Deuxième épisode, le dossier Dreyfus.
L'idée du Front populaire est plus vivace et plus puissante que jamais.
Voici Léon, défend ton ministère.
Un juif ?
Un juif, oui. Pauvre France.
Le récit débute durant l'été 1897.
Pourquoi cette mise au fer, commandant ?
C'est une mesure de sécurité imposée par Paris.
Depuis 2 ans déjà, Alfred Dreyfus est en détention sur l'île du Diable, au large de la Guyane. Il a été condamné pour espionnage, affaire classée.
Monsieur le Président de la République, je me permets de vous demander que ce journal écrit au jour le jour soit remis à ma femme. On y trouvera peut-être, Monsieur le Président, des cris de colère. Car je vous le répète une fois de plus, Monsieur le Président, je suis innocent.
Il clame son innocence, mais pour tout le monde, c'est un traître à la patrie. De son côté, en août 1897, Léon Blum est en vacances à Enghien-les-Bains. Le jeune conseiller d'État a loué une jolie maison d'été avec sa femme et leurs amis. Il a 25 ans et la vie devant lui. À quoi ressemble-t-il ?
Il faut imaginer Léon Blum comme un bel homme, très fin.
Dominique Missica, historienne.
Assez dandy, mince, très soucieux de sa personne, d'une élégance sophistiquée, des guêtres, un chapeau, des lunettes, une moustache, bien sûr. Il a le goût du beau, c'est un esthète.
Un esthète qui reçoit à Enghien-les-Bains, en août 1897, la visite d'un ami cher.
Bonjour Lucien.
Bonjour.
Léon, c'est Lucien R qui vient d'arriver.
L'homme arrive de Paris à bicyclette. Il s'appelle Lucien R, H-E-2-R. Qui est-il?
Lucien R occupe un poste absolument essentiel dans ces années 1890-1900, et même un peu plus tard.
Pierre Birnbaum est historien et biographe de Léon Blum.
Puisqu'il est le bibliothécaire de l'École normale supérieure. Donc il est normalien lui-même. Il va jouer un rôle absolument essentiel parce qu'il va irriguer au fond des générations entières de normaliens.
Ce personnage d'Alsacien, qui en avait toute la stature, Alsacien du Haut-Rhin.
Madeleine Réveriou nous propose un portrait de Lucien R.
Grand, massif, mastoc, homme de silence, qui se marie très tard, qui se veut le plus âgé, mais le compagnon des jeunes dont il est bibliothécaire à l'École normale supérieure. Ne pas oublier qu'il déjeune tous les jours avec eux, sans aucune exception, il déjeune tous les jours à l'école, jusqu'au moment où il se marie. Alors cette espèce de fraternité d'un aîné, de fraternité de quelqu'un qu'on respecte, va jouer certainement un rôle. De même, me semble-t-il, le fait que cette fraternité vient de quelqu'un qui était un savant et qui s'est toujours voulu tel, qui se définit comme une image du savant. Enfin, c'est une figure morale, Lucien.
Et c'est lui qui, en 97, à la fin 97, rencontre Léon Blum et lui dit, vous savez, Alfred Dreyfus est innocent.
Dans la chaleur de l'été, Léon Blum lui répond, qui ça? Dreyfus, Alfred Dreyfus, le capitaine juif, il est innocent.
Je le jure, je suis innocent.
Léon Blum avait un peu oublié ce dossier, comme à peu près tout le monde. Mais sur les rives du lac d'Enghien, Lucien R lui démontre que Dreyfus est un innocent qui croupit sur l'île du diable.
Donc c'est à travers Lucien R qui joue un rôle essentiel dans cette prise de conscience de l'innocence du capitaine que va aussi se former un groupe des premiers Dreyfusards auxquels vont participer les différentes revues, Peggy. Il anime un milieu intellectuel et il lui donne un ressort politique, d'engagement politique.
Lucien R, personnage méconnu mais central dans l'affaire Dreyfus. Revenons en arrière. En 1895, Alfred Dreyfus a été condamné au bagne à perpétuité. Accusé d'avoir livré aux Allemands des documents secrets.
Les Juifs sont lâches. Ce sont des hommes de l'ombre et de l'intrigue. Je vous garantis que Dreyfus va s'effondrer dès qu'il se verra démasqué.
Dans un contexte de revanche, où la France aspire à récupérer l'Alsace-Moselle, cet officier juif est le coupable idéal. Un traître, un mauvais Français, un espion. Et en 1895, personne ou presque ne doutait de sa culpabilité.
Dreyfus est coupable, il répond tout à fait au portrait idéal du traître.
Alors, comment réagit Léon Blum face à la démonstration de Lucien R deux ans plus tard?
Lorsque Blum apprend que Dreyfus est innocent, et il faut dire qu'il n'a pas beaucoup prêté attention durant ces trois années au destin du capitaine, pas plus que la société française dans son ensemble, qu'il a laissé tomber complètement.
L'historien Pierre Birnbaum.
Il va s'engager de manière très vive, très forte. Il va délaisser son travail d'écrivain, son travail d'intellectuel. Il va s'engager vraiment. Et il peut le faire d'autant plus que précisément il est un juif d'État, il est un juriste. Donc il va s'engager en tant que juriste, il va se mettre au service de la cause Dreyfusard, il va rédiger des textes auprès de Laborie, de l'avocat Laborie. Il va également s'engager auprès de Clémenceau. Enfin, les grandes figures du combat Dreyfusard vont bénéficier de son aide de juriste. Il va aussi avoir un rôle très actif, puisqu'il va courir les rues pour recueillir la signature de différentes personnes. Et par exemple, il va voir Barrès. Il est sûr que Barrès, son âme sœur, celui qu'il respecte tellement, le prince des lettres, lui qui a un rôle fondamental dans les lettres françaises de l'époque, et il est certain que Barrès va accepter de défendre Dreyfus. Or, Barrès refuse. Et c'est là, au fond, que se fait la rupture avec Barrès, qui est essentielle pour comprendre l'itinéraire intellectuel de Léon Blum. On a oublié de nos jours que Barrès est le prince des écrivains. Barrès est le grand écrivain de la fin du XIXe siècle. Et Barrès, au fond, est celui que tout le monde veut imiter, celui que, dont tout le monde recherche l'amitié. Et aussi bien Léon Blum que Marcel Proust. L'un et l'autre vont s'éloigner de Barrès lorsque Barrès va devenir le prince des anti-Dreyfusards et le héros des antisémites, celui qui est au cœur du camp le plus violent de la réaction intégriste catholique. Blum est celui qui magnifie la liberté de l'individu. C'était le cas de Barrès. Mais lorsque Barrès va construire sa théorie de l'enracinement dans la terre, qui va être au cœur de l'extrême droite, de la pensée d'extrême droite, Blum va rompre absolument en montrant que l'homme est responsable de lui-même, de ses valeurs et de ses engagements.
Écoute ce que dit Barrès.
Mais qu'ai-je à faire avec le nommé Dreyfus ?
Maurice Barrès.
Ah non, certes. Il n'est pas au monde un groupe d'hommes qui puisse accepter cet individu. Il n'est point né pour vivre socialement. Seul, dans un bois décrié, une branche d'arbre se tend vers lui pour qu'il s'y pende.
Tant de haine, c'est pas possible. Un écrivain si brillant que nous avons apprécié.
Léon Blum, Souvenirs sur l'affaire, 1935. Quand j'évoque la phase aiguë de l'affaire Dreyfus, voici le souvenir le plus puissant qui afflue. Ni pour mes amis, ni pour moi, la vie ne comptait. Nous nous serions sacrifiés sans la moindre hésitation pour la vérité et pour la justice.
Quelle leçon Léon Blum tire-t-il de cette affaire Dreyfus, Pierre Birnbaum?
Moi, je pense que il n'est pas dans la plainte, Blum. C'est un amoureux de la République et c'est quelqu'un de combatif. Donc, contrairement à une certaine interprétation larmoyante qui voit dans l'affaire Dreyfus la trahison de l'État, dans une certaine manière, c'est vrai. L'État-major trahit les Juifs et Dreyfus. L'État lui-même fait le dos rond et ne s'engage pas dans ce combat pendant très longtemps. Il me semble que néanmoins, la leçon que Blum va en tirer, elle est différente. Et c'est une leçon plus positive, plus optimiste. C'est-à-dire que c'est une leçon où, au bout du compte, néanmoins, en 1906, l'État républicain, la Cour de cassation, reconnaît l'innocence du capitaine. Finalement, en dépit de ce flot d'antisémitisme qui submerge la société française jusque dans les petits villages, jusque dans les petites villes de province, en dépit du retard à l'allumage de l'État républicain, au fond, Léon Blum est optimiste. Et je pense qu'il aura la même réaction qu'après Vichy. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est, au fond, la résistance. Ce qui compte, c'est la résistance de l'État républicain pendant l'affaire Dreyfus. Ce qui comptera, c'est la résistance de Gaulle et des Maquis et de la France républicaine qui surnage. Et je pense qu'il en garde une vision plutôt optimiste que négative.
Au tournant du siècle, l'optimisme de Léon Blum quant à la capacité des républicains à se défendre contre les réactionnaires est bien réel. Néanmoins,
Blum, juif d'origine alsacienne, comme Alfred Dreyfus, a aussi pris conscience que cette affaire a remué les bas instincts jusqu'à fracturer la société française.
Oui, mes amis, Dreyfus, le véritable Dreyfus, est ici, parmi nous, ce soir, en chair et en os. Faites-le entrer. Le voilà, votre Dreyfus! Le voilà! Un sale porc déguisé en soldat!
Dans la vie de Léon Blum, l'affaire Dreyfus change et éclaire toute la suite.
Oui. Tout change après l'affaire Dreyfus. Cela dit, précisons que le rôle joué par Blum fut assez mineur. Il n'avait pas 30 ans et il s'est engagé dans le combat avec ses armes à lui. En tout cas, cette affaire est centrale pour comprendre la suite.
Excusez-moi, messieurs, Jaurès, c'est lequel ?
C'est lui. C'est lui, notre seul espoir.
Ça va être un moment majeur dans sa vie puisque c'est là qu'il va rencontrer Jaurès.
L'ancien conseiller d'État, Frédéric Salabarou.
C'est là que va se faire cette rencontre essentielle avec un Jaurès qui fait beaucoup de chemin, puisque en 94, début 95, il considère que c'est un problème que la loi ne permette pas d'exécuter le traître Dreyfus. Il est ensuite très en phase avec l'idéologie classique du socialisme consistant à dire « c'est une affaire de bourgeois, ne nous mêlons pas de la question de savoir si Dreyfus est innocent ou pas, ça n'est pas le problème du prolétariat ». Et puis ensuite, il a conscience que derrière l'affaire Dreyfus, il y a quelque chose de fondamental, c'est la justice et l'homme. Et que le drame de Dreyfus est en réalité universel et concerne tout le monde. Et donc, à partir de 1897-98, Jaurès va basculer et va prendre un rôle très important. Il va écrire Les Preuves, qui est l'équivalent du J'accuse de Zola, moins connu, et va être extrêmement aux côtés de Dreyfus pendant toute cette période. Donc, cette rencontre est absolument essentielle. Et quand on parle de Blum, vous dites Blum, une vie héroïque. Dreyfus est un héros français extraordinaire. Moi, je suis fasciné par le retournement de l'histoire dans l'affaire Dreyfus. S'il y a eu une affaire Dreyfus, s'il y a pu y avoir le temps pour trouver les preuves, le J'accuse, le suicide du colonel Henri, c'est parce que Dreyfus a tenu à l'île du diable. Et s'il a tenu, c'est parce qu'il était convaincu que la France était un pays juste, que l'armée dont il faisait partie était juste, que le général de Boisdeffre, qu'il admirait, était en train de chercher les preuves pour prouver son innocence. Et en réalité, c'est assez passionnant parce que l'antisémitisme qui se déploie dans l'affaire Dreyfus, c'est la phrase terrible de Maurice Barrès que Dreyfus ait pu trahir, je le conclus, de sa race, qui est la phrase la plus antisémite et la plus inhumaine qui soit, c'est parce que Dreyfus n'était pas ce que les antisémites considéraient, qu'il était profondément attaché à son pays, qu'il y croyait, qu'il a pu survivre et qu'il a pu démentir les accusations dont il faisait l'objet. Donc il y a quelque chose de magique au-delà de tout ce que l'affaire Dreyfus représente dans ce destin personnel de Dreyfus. Et donc à côté de ça, il y a le destin de Blum, puisque à la fin de l'affaire Dreyfus, il a le choix entre trois chemins. Le premier, c'est de faire comme Proust. C'est-à-dire, on revient dans les dîners en ville artistiques et puis on réconcilie les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Le deuxième, c'est ce que fait Bernard Lazare. C'est-à-dire qu'il considère, comme Théodore Herzl, que l'affaire Dreyfus montre bien qu'on va vers une tragédie en Europe et qu'il n'y a qu'une seule réponse, c'est le sionisme. Il aurait pu le faire. Blum était sioniste, mais il était, plus encore, français. Et puis la troisième chose, c'est « Je m'engage dans le socialisme aux côtés de Jaurès, pour la justice. » Et c'est ce choix qu'il fait. Donc c'est un moment très important, mais il aurait pu faire les autres choix.
Bonjour madame, les bureaux de la Revue Blanche vous prient. Merci.
Bernard Lazare, journaliste politique, juif, fut l'un des tout premiers Dreyfusards, convaincu qu'il fallait créer un État juif en Palestine pour échapper aux violences antisémites en Europe.
J'ai longtemps cru que l'antisémitisme était voué à la disparition.
D'un côté, par l'évolution de la société elle-même, le socialisme signifiera la fin de cet archaïsme.
Bernard Lazare.
De l'autre côté, l'évolution des Juifs eux-mêmes, leur rupture avec le vieil esprit talmudique aidera également à cette disparition. Et j'en suis plus tellement certain.
Mais à l'aube du XXe siècle, Léon Blum choisit plutôt la voix de Jean Jaurès.
La parole est à monsieur Jean Jaurès, député du TAP.
Le jeune conseiller d'État est subjugué par le député du Tarn.
Léon Blum, dans Souvenirs sur l'affaire, 1935. Je me revois en face de Jaurès, opprimé par quelque chose de plus pesant que l'émotion, par cette puissance d'admiration et de don qui était naturellement en moi. Je compris plus tard jusqu'à quelle profondeur du terme il était humain, ce que signifiait pour lui l'idée d'humanité.
Dreyfus a été condamné illégalement. S'il est innocent, il n'est plus qu'un homme dépouillé de tout caractère de classe par l'excès même du malheur. Il n'est plus que l'humanité elle-même, au plus haut degré de la misère et du désespoir.
Alors, vous l'avez dit, cette affaire Dreyfus va lier une amitié très forte entre Léon Blum et Jean Jaurès. Quel rôle joue alors Jaurès sur le jeune Léon Blum parisien du début du XXe siècle ?
Alors, ce n'est pas une amitié, c'est en ça que c'est passionnant. C'est une admiration totale. Il n'y a pas tellement d'écart d'âge entre Blum et Jaurès. Mais en revanche, dès le premier regard, il le raconte d'ailleurs, il se place en disciple. C'est-à-dire qu'il comprend qu'il a en face de lui quelqu'un d'exceptionnel. Et Jaurès est exceptionnel. Il est intellectuellement exceptionnel. Il a une culture classique qui est totalement hallucinante, de la poésie grecque, latine. C'est quelqu'un qui vit complètement dedans. C'est un homme politique qui est extrêmement doué, engagé. Probablement, c'est ce qui se disait à l'époque, le plus grand orateur depuis Mirabeau. C'est quelqu'un qui est capable également, alors qu'il est déjà un homme politique très installé, de devenir historien et qui écrit une histoire très intéressante, l'histoire de socialiste de la Révolution française, qui est tout à fait passionnante, qui a écrit sa deuxième thèse, comme c'était le cas en latin, sur les origines du socialisme allemand, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense, Jaurès connaît bien le marxisme, et pour une part, il est marxiste. Et puis, il a une pensée extrêmement structurée, c'est plus qu'un humaniste. Et donc, Blum va comprendre ça et il va se placer, non pas en égal, voire un peu en critique de ce type, avec une barbe mal fagotée, voilà, avec des taches partout, en mangeant n'importe comment. Il comprend très vite qu'il a quelqu'un d'exceptionnel et il va apprendre avec lui. Il va apprendre sur le terrain des principes et il va apprendre ce qu'est le socialisme, qui est d'une complexité, le socialisme français, d'une complexité absolue.
Jusqu'à la fin de sa vie, Léon Blum a conservé son admiration pour Jaurès. Nous sommes en 1947, sous la coupole du Panthéon. Léon Blum a 75 ans. Épuisé par la vie, il souhaite cependant rendre un dernier hommage à son maître en politique.
Nous sommes ici les anciens du parti. Toutes les femmes et tous les hommes qui sont ici ont connu Jean Jaurès, ont vécu près de lui, ont vécu et lutté à ses côtés. Je fais appel à leurs témoignages. N'est-il pas vrai que l'homme près de qui nous avons vécu, dont nous avons familièrement contemplé l'image vivante, dont nous avons entendu la voix et serré la main, était vraiment, authentiquement, un des génies cardinaux de la France moderne et un des héros de l'humanité.
Blum est immédiatement conquis par le socialisme réformiste et républicain de Jaurès, qui est normalien comme lui, et dont il partage au fond toutes les valeurs, y compris le courage physique.
L'historien Pierre Birnbaum.
Dans les années, les premières années du XXe siècle, ils sont très proches. Et Blum va se faire au fond l'apôtre de la pensée de Jaurès, qui défend un rôle de l'État, et il va théoriser cette pensée en esquissant une opposition qui va être majeure à son époque entre la destruction de l'État et l'occupation de l'État. Au fond, il va essayer de montrer qu'il n'est pas nécessaire de détruire l'État, comme le veut le courant blanquiste, qui est extrêmement important à l'époque.
Arrêtons-nous un instant sur le courant blanquiste.
Votre nom ?
Blanqui.
Votre prénom ?
Louis-Auguste.
Auguste Blanqui, né en 1805, a participé activement à tous les mouvements populaires en France, depuis les journées révolutionnaires de 1830 jusqu'à la Commune de Paris.
Construction, une barricade de zère au carrefour de zère du poids du jour.
Blanqui est mort en 1881, mais à la fin du 19e siècle, ses héritiers sont puissants et ils aspirent à la destruction de l'État bourgeois.
Ne jamais négocier, ne jamais voter et prendre les armes quand il le faudra.
Alors, entre les blanquistes, les réformistes et les marxistes, les socialistes français sont tiraillés par les divisions. Néanmoins, aidés entre autres par Léon Blum et par l'affaire Dreyfus, Jaurès parvient en 1905 à réaliser l'impossible.
Nous allons assister demain à Paris à un véritable miracle. Les socialistes français, rois de la division, spécialistes des divergences et des oppositions, vont enfin s'unir.
En 1905, au congrès du Globe à Paris, à la salle du Globe, boulevard de Strasbourg, les socialistes français, entraînés par un élan européen, se réunissent enfin sous la bannière de la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière.
Debout, les damnés de la terre, debout, les forçats de la faim.
C'est le premier congrès socialiste. Dans la foulée de l'affaire Dreyfus, au contact de Jaurès, Léon Blum prend goût à la politique et il trouve des fonds pour créer le journal L'Humanité, organe de presse qui sert à fédérer la gauche socialiste.
Il est beau,
non ?
Anatole France, Lucien Air, Léon Blum, les plus beaux talents de Paris, nous avons 17 agrégés.
Oui, mais où sont les journalistes ?
Nous devrions appeler le journal Les Humanités.
Cela dit, une fois l'union réalisée, en 1905, Léon Blum est perplexe.
Il ne comprend pas, même s'il restera très proche de Jaurès toutes ces années jusqu'en 1914, il ne comprend pas le choix fondamental que fait Jaurès.
Frédéric Salabarou, ancien conseiller d'État.
Jaurès, qui aurait pu être ministre, considère que la seule chose qui compte, c'est l'unité du mouvement socialiste par-delà les différences. Et donc la condition de l'unité du mouvement, c'est d'accepter de se rallier à un parti unifié qui prend le verbe et la doctrine orthodoxe marxiste. Et ça, c'est pas compréhensible ni pour Blum, ni pour Lucien Air. Donc tous ces gens s'éloignent de Jaurès. Et Blum ne comprend pas ce qui est très essentiel dans l'histoire du socialisme, c'est que, évidemment, on peut être très différent, voire d'accord sur rien. La seule chose qui compte, c'est l'unité. Quitte à faire l'unité dans la radicalité. Et d'ailleurs, ça résonne de manière incroyable avec la période dans laquelle on est aujourd'hui.
À partir de 1905, Léon Blum demeure dans la sphère socialiste, mais il prend ses distances avec la politique et avec le parti.
Qui veut des glaces ? Je manifeste, qui veut des glaces ?
En 1906, Léon Blum a retrouvé sa vie d'avant l'affaire Dreyfus. Conseiller d'État, il est promu maître des requêtes en 1907. Par ailleurs,
il s'impose comme le plus grand critique littéraire et dramatique de son temps.
Ça va commencer.
Une véritable vocation au point d'abandonner toute activité politique. En 1908, Léon et Lise Blum vivent désormais boulevard du Montparnasse, dans un appartement plus bourgeois, une vraie vie mondaine. Dîner costumé, discussions enflammées ou lecture à voix haute. Une vie a priori paisible. Et pourtant, Léon Blum est au centre d'une vive polémique après la publication d'un essai sulfureux sous sa plume, un livre intitulé « Du mariage ».
Quiconque, encore aujourd'hui, ouvre ce livre...
Dominique Missica, historienne.
Se dit, mais est-ce possible qu'en 1907, un Léon Blum écrive que les femmes doivent bénéficier de l'égalité avec les hommes et bénéficier d'une liberté sexuelle. Elles doivent connaître le plaisir avant d'épouser leur mari. C'est un choc, c'est un scandale. Enfin, et c'est d'autant plus un scandale, et Léon Blum en est tout à fait conscient, puisque très habilement, de manière très, très fine, il le dédicace à son épouse. Et c'est le Léon Blum amoureux de l'amour, c'est Léon Blum amoureux des femmes. Il dit qu'il lui est arrivé de suivre des femmes dans la rue. Un grand sentimental, un grand amoureux, il aime l'amitié féminine. Il n'y a nulle trace de misogynie chez Léon Blum. Et ce livre du mariage provoque évidemment soit la gêne parmi ses amis qui sont quand même un peu troublés, soit carrément choc, parce que la morale est bafouée. Enfin, je sais pas moi, prôner la liberté sexuelle pour une femme avant le mariage en 1907, il faut être quand même, je dirais aujourd'hui, gonflé. Et ben c'est la liberté de Léon Blum.
Léon Blum dans « Du mariage », 1907. L'homme et la femme sont d'abord polygames, puis... dans l'immense majorité des cas, parvenus à un certain degré de leur développement et de leur âge, on les voit tendre et s'achever vers la monogamie. Le vice du mariage actuel, c'est qu'il unit un homme déjà parvenu à la période monogamique avec une femme encore neuve, avec une femme qui, normalement, avant de se fixer, devrait dépenser épuiser l'instinct de polygamie qui est en elle.
Du mariage, c'est un livre qui pose clairement que cette institution fonctionne mal. Et pourquoi fonctionne-t-elle mal ?
Pascal Horry, historien.
Parce que c'est l'union légale, c'est un juriste qui parle, membre du Conseil d'État, etc., entre un désir qui a déjà été assouvi ailleurs, c'est celui de l'homme. Donc c'est une lecture genrée, comme on dirait aujourd'hui, alors que la femme doit, en bonne logique, une femme respectable, arriver vierge au mariage. C'est tout à fait clair. Il est question de sexualité. C'est un livre, il est question de sexualité. Et vous imaginez, ou plutôt on imagine peut-être plus aujourd'hui, le scandale. L'extrême droite antisémite, qui ne connaissait pratiquement pas Blum, a bien repéré qu'il était juif, etc. Et vous avez un journal d'extrême droite de l'époque qui a titré à la sortie de ce livre « La pornographie au Conseil d'État ». C'était de la pornographie, puisque ça consistait à dire « Mais pourquoi donc ?» Cette injustice qui consiste à obliger les femmes à rester vierges. Vous imaginez, il avait même des propositions encore plus audacieuses dans le livre. Et résultat, ça resservira dans la propagande d'extrême droite contre Blum. En 1937, l'éditeur Albin Michel, le sens du commerce, ressort du mariage. Et alors, c'est une campagne d'une extrême violence. Léon Daudet se déchaîne en parlant de cette ordure qu'on réédite.
En avril 1972, à l'occasion du centenaire de la naissance de Léon Blum, France Inter a programmé une émission spéciale où la sociologue Evelyne Sulreau s'est exprimée sur ce livre qui faisait écho à la mouvance féministe.
Je crois que l'idée la plus neuve de Léon Blum là-dedans, c'est la polygamie nécessaire pour la femme pendant une période de sa vie. Et c'est pas seulement le plaisir, c'est changer d'homme, ce qui va beaucoup plus loin encore. puisque sa grande théorie dans ce livre, c'est que la femme comme l'homme, ou l'homme comme la femme, parce qu'il y a tout le temps un équilibre tenu par l'auteur entre les deux sexes, ont une période où ils tâtonnent, ils recherchent l'amour pour l'amour, le plaisir pour le plaisir, avec des partenaires différents. Après quoi, il y aurait une envie de se fixer et que le mariage devrait intervenir seulement à ce moment-là, et pour les femmes comme pour les hommes. Et naturellement, il en vient, dans un chapitre qui se situe à la fin de son livre, au problème des enfants. Et là, alors, il a des idées qui devaient être extrêmement révolutionnaires pour l'époque, puisqu'il concède à la femme le droit d'avoir des enfants de plusieurs hommes, de l'homme qui lui plairait, n'est-ce pas, de l'homme qu'elle choisirait pour avoir un enfant, et dit que ça n'aurait aucune importance. L'homme mûr, arrivé à la période où il a envie du mariage et de la stabilité, serait très content de trouver des enfants tout faits, dit-il.
Oui, parce qu'il faut redire, Pascal Auric, qu'il propose quelque chose comme solution pour rendre le mariage plus efficace, c'est que la femme arrive au mariage avec autant d'expérience sexuelle que l'homme. Ce qui, effectivement, pose problème dans une société puritaine et chrétienne. D'ailleurs, l'extrême droite dira « œuvre satanique », c'est le juif qui vient dissoudre la famille chrétienne.
Il est évident que les thèses de Blum, le pauvre n'y avait pas pensé, alimentent tout un discours antisémite sur le juif fondamentalement destructeur et qu'il a détruit la famille chrétienne, la famille française, qui humilie la femme, qui l'insulte en quelque sorte. Et là, on voit bien que quand il est saisi par des idées qu'il considère comme progressistes, parce qu'il défend tout ça avec des considérations qui sont celles de toute une gauche athée, presque matérialiste, en disant « mais écoutez, regardez comment nous sommes constitués », etc. Il n'a pas vraiment l'impression que c'est si extraordinaire. Il sent bien que c'est un peu audacieux, mais déjà, du côté des Scandinaves, par exemple, ça commence à bouger. Eh bien non, le pauvre, effectivement, ça alimente la campagne antisémite, oui.
Je dirais qu'il y a, dans sa manière de parler des femmes,
Evelyne Sullerot,
un mélange de respect total pour l'être féminin, pour sa liberté d'être, pour son bonheur, pour son plaisir. Une femme peut rarement lire un ouvrage écrit par un homme sans tiquer, n'est-ce pas, à certaines choses. Là, vraiment, il est foncièrement avec la raison et le cœur féministe.
Au moment même où est sorti du mariage, Léon Blum passe des vacances avec des amis dans une villa à Damary-les-Lys. Et c'est là qu'il croise pour la première fois Thérèse, jeune femme espiègle.
C'est une love story, soyons directs.
Dominique Missica.
Un coup de foudre pour une jeune femme, Thérèse Pereira, qui est exactement à l'antipode de Lise Bloch, de son épouse. Si Lise Bloch est une femme placide qui passe ses journées allongée sur une chaise longue à lire en attendant la sortie au théâtre ou de jouer au piano et de chanter, eh bien Thérèse, c'est l'inverse. C'est un bolide. Elle conduit d'ailleurs, ce qui est quand même à l'époque aussi, elle fait parmi des premières femmes conductrices. Elle est sportive.
Play.
Ready.
Elle joue au tennis, elle fait de la bicyclette. Elle est ardente. Le souci, c'est que elle est fiancée. Quand Léon Blum et Thérèse Pereira passent des vacances ensemble, certes, leur rapprochement se fait petit à petit, mais Thérèse est fiancée, Léon Blum est marié. Situation un peu délicate. Thérèse se marie avec Edmond Mérargue, un bel agent de change, qui a plein d'atouts dans sa manche. Il est beau, il est riche, bien installé. Il est plus vieux que Thérèse, mais au fond, à l'époque, ça n'a rien d'étonnant. Donc ce mariage est prévu, il se déroule, mais manifestement, l'attirance est trop forte pour y résister. Et Thérèse et Léon vont entamer une liaison.
Vous n'aviez pas peur de son penchant pour la polygamie?
Non. Je suis irrésistible.
Cette liaison débutera en 1911, après qu'ils se soient recroisés un soir par hasard
sur les grands boulevards. C'est une rencontre qui va compter dans la vie de Léon Blum. Nous y reviendrons.
Madame Leroy.
Mais pour l'instant, il est marié et monopolisé par sa passion pour le théâtre.
Léon Blum, dans les annales du théâtre et de la musique, 1913.
Je suis critique de profession et, si j'ose dire, de vocation. Je ne me suis jamais mêlé de théâtre que pour compter et juger les pièces des autres.
Léon Blum est devenu un critique littéraire et dramatique très en vue. Parfois même à ses risques et périls, comme en 1912, où il dut en découdre à l'épée au Parc des Princes, vêtu d'un maillot noir et de chaussures de tennis gris clair.
Les débats tournent parfois au combat singulier. Léon Blum, critique littéraire déjà féru de politique, attaque son collègue Pierre Weber.
Il se bat en duel avec un critique d'art, Pierre Weber.
Pierre Birnbaum.
Et quand on retrouve les comptes rendus dans la presse, comme je l'ai fait moi-même, on est fasciné par la manière dont, à chaque fois, on met en lumière la virilité, sa violence, sa détermination à en découdre, à blesser son adversaire. Et tous les comptes rendus font état de cette virilité qui va, au fond, accompagner Blum, quelle que soit sa féminité, et qui va le mener à résister toute sa vie à l'ennemi, à résister aux ligues d'extrême droite dans les années 30, à résister aux Allemands, à résister à la milice pendant Vichy, à faire preuve d'un courage physique à Buchenwald lors de son incarcération par les Allemands. Donc je pense que cette dimension, on a à la fois un être qui présente deux faces, un être séducteur, féminin peut-être dans sa manière d'être, avec cette petite voix fluette avec laquelle il prend la parole, et puis en même temps un être qui n'hésite pas à se battre physiquement et à affronter l'adversaire, à lui résister.
Vous évoquiez ce duel avec Pierre Weber. Il existe des images tournées. Si on va sur YouTube aujourd'hui, on peut voir le duel de 1912 face à Pierre Weber. On est impressionné à la fois par sa maestria de l'épée, mais par son courage, Pierre Birnbaum.
Mais il existe non seulement des images, mais dans mon souvenir, un film.
Absolument, des images qui bougent.
Voilà, c'est un oui. petit film, c'est un film où on le voit dandy, avec son chapeau, son couvre-chef qui va devenir célèbre pendant le Front populaire. Il est là vraiment habillé comme un esthète et non pas comme un militaire. Il est tout le contraire du capitaine Dreyfus, voyez. Mais en même temps, il partage sa détermination physique. Il va être légèrement blessé, mais son adversaire le sera davantage. C'est son adversaire qui va arrêter le duel. Blum, au fond, triomphe. Et ce duel joue un rôle symbolique important dans sa vie.
Docteur, examinez la plaie, je vous prie.
Non, y a rien. Il vous a manqué un cheveu.
Cette vie mondaine de Léon Blum n'est pas dénuée d'inquiétude quant au péril de la guerre en Europe.
L'Autriche-Hongrie a remis à la Serbie une note concernant l'assassinat de l'archiduc Ferdinand à Sarajevo. Tu crois qu'on va avoir la guerre ?
Et dans cette course inexorable vers l'abîme, les socialistes du vieux continent tentent d'empêcher l'affrontement des nationalismes.
La semaine prochaine, le Bureau international est convoqué à Bruxelles. Jaurès attache la plus grande importance à cette réunion. Les délégués de 22 pays différents. Ce qui se prépare là, c'est peut-être, sans violence inutile, le triomphe du socialisme dans le monde.
Jean Jaurès, pacifiste viscéral, veut convaincre les ouvriers français, allemands, belges et anglais de lutter contre la mécanique des alliances et de déclencher de grandes manifestations pour refuser le combat.
Ah, Blum.
Bonjour Jaurès.
Je file à Bruxelles. Accompagnez-moi à la gare. Le bureau de l'international se réunit demain matin.
Le 29 juillet 1914, Léon Blum accompagne Jaurès à la gare du Nord. Le leader de la SFIO se rend à Bruxelles pour une ultime tentative pacifiste. Le 31 juillet, Jaurès est de retour à Paris et s'installe au Café du Croissant pour dîner. En 1964, la télévision française a retrouvé un des témoins oculaires de l'assassinat de Jean Jaurès en 1914.
Il s'appelle Georges Veille, alsacien. Il était en 1914 député protestataire au Parlement allemand et correspondant à Berlin du journal L'Humanité, dont Jaurès était le directeur.
Il y a 50 ans, jour pour jour, j'étais ici à cet endroit, assis en face de Jaurès. Et c'est là où j'ai vu surgir, derrière Jaurès, un bras au point duquel il y avait un revolver dressé contre la tête de Jaurès. Deux coups de feu. Jaurès tombe. Une voix, celle de Madame Poisson. Ils ont tué Jaurès, ils ont tué Jaurès. Jaurès est étendu sur des serviettes, sur une table de marbre. Et trois secondes après, cinq secondes après, la voix du médecin, messieurs, monsieur Jaurès est mort.
Monsieur Jaurès est mort. Mort.
L'assassin s'appelle Raoul Villain, 29 ans, étudiant en archéologie, nationaliste, partisan de la guerre et proche de l'Action française.
On a tué Jaurès.
Très vite, la mort de Jaurès se répand dans Paris.
Tout peut arriver. Je vous laisse, excusez-moi, je cours au ministère.
La Chine est lancée.
Léon Blum est prévenu. Il se précipite au domicile de Jaurès. Le disciple est effondré.
Pour un être aussi sensible que lui, cette mort qui bouleverse au-delà de la gauche, quand même, est à la fois terrible et en même temps c'est une sorte de réveil. Parce que pour simplifier, de ce jour-là, Blum entre vraiment en politique et n'en sortira plus.
Pascal Horry.
Et cette mort provoque chez lui cette conclusion qui rejoint la conclusion de la majorité des socialistes, à savoir, ça sera quand même la guerre. Alors que Jaurès, la majorité des socialistes, se vivent comme pacifistes. Eh bien, Léon Blum choisit effectivement l'Union sacrée, mais il n'est pas le seul. Au contraire, c'est plutôt l'exception. Ceux qui ne choisissent pas parmi les socialistes de l'époque. Quand on dit socialiste, c'est l'extrême gauche. Hein. Il n'y a pas encore de communistes. Hein. On peut dire que c'est désormais la politique qui est l'étoile de son chemin.
Monsieur Jaurès est mort.
Alors, il était resté proche, ils avaient renoué de manière encore plus nette.
Frédéric Salabarou.
Donc c'est évidemment un choc, hein, il perd son père spirituel, mais c'est d'abord, cette année 14 est une année de libération complète de Léon Blum sur plusieurs terrains. Il perd sa mère, ce qui n'est jamais neutre, il devient un homme. Il va perdre Jaurès, et l'héritage de Jaurès est compliqué à porter, donc il est désormais le porteur d'une époque du socialisme et d'une vision du socialisme. Et puis, il y a quelque chose qui n'est pas neutre. Quelques mois avant, quelques années avant, il fait des conférences au Théâtre de l'Odéon sur la littérature. Et là, il comprend quelque chose qui n'est pas évident, c'est que ce n'est pas un homme de l'écrit, c'est un homme du verbe. Il fascine son auditoire. Et puis, il y a Thérèse qui va lui faire comprendre qu'il doit s'engager et qu'en réalité, il est fait pour l'action politique. Et il y a une phrase absolument magnifique qui dit tout de leur relation. Elle dit
« C'est ma faute, je le sais. C'est à cause de moi que vous vous êtes lancé dans cette politique active qui vous dévore. Et je le déplore. Mais que faire? Je ne peux pas me passer de toi. »
On voit cette espèce de mélange, le tu, le vous, l'amour, l'engagement. Donc elle est nécessairement, sans avoir jamais cherché à lui dicter sa conduite, à la pousser à assumer une voie vers laquelle, de toute façon, il avait la tentation depuis très longtemps d'aller. Donc tout ça se focalise avec un moment magique, hein, cinématographique. Barrès va présenter ses condoléances à la famille de Jaurès, donc il sonne au petit matin, Blum a veillé Jaurès, il ouvre la porte et accueille Maurice Barrès, et là c'est la passation symbolique entre les pères. Désormais, son père spirituel, c'est Jaurès. Et surtout, ce qui est important, parce qu'il n'y a pas que de l'idéal, il y a aussi de l'ambition. Son ambition va se former et il va récupérer l'héritage de Jaurès pour devenir Léon Blum, le politique.
Jaurès,
La mort de Jaurès est un coup de tonnerre dans le ciel de l'Europe. Et en France, la SFIO décide aussitôt de rejoindre l'Union sacrée pour défendre la République. C'est le consentement à la guerre. En 1914, Léon Blum a 42 ans. Et une première vie pour lui s'achève avec la mort de Jean Jaurès. Jusqu'ici, il était un homme double.
Il est double parce que, probablement jusqu'en 1920, beaucoup de choses sont doubles chez lui. Il a voulu être un écrivain, mais il fait quand même l'école normale supérieure, mais il hésite et il finit par s'y faire renvoyer. Donc il y a une hésitation, est-ce qu'il devient un poète comme ses amis, ou au fond, est-ce qu'il est rangé ou pas. Ensuite, il va faire son droit et rentrer au Conseil d'État, épouser une fille de son milieu. Et donc, il y a cette idée, il faut être raisonnable et faire des choses. Et d'ailleurs, il les fait bien. Léon Blum a été un très bon commissaire du gouvernement au Conseil d'État. Il y a 4 grands arrêts aux conclusions Léon Blum au recueil. Ça peut paraître très technique, mais symboliquement, c'est essentiel. Et d'ailleurs, vous allez au Conseil d'État, il y a une salle Léon Blum avec des écrits, des choses qui lui ont appartenu, qui montrent bien qu'il n'était pas n'importe qui. Donc, il y a ça, mais au même moment, il vit comme un critique littéraire. Et d'ailleurs, il y a une préface d'un de ses recueils de critiques où il dit « Je suis critique littéraire de profession », oubliant qu'au même moment, il est conseiller d'État. Donc, il y a toujours cette double aspiration, l'aspiration à la sécurité, l'aspiration, entre guillemets, à l'art ou à l'aventure, qu'on va retrouver de manière extrêmement forte dans sa vie privée. À partir de 1911 et jusqu'à la mort de Lise, sa première épouse, il a en réalité 2 femmes, Lise et Thérèse, l'une incarnant son milieu, la sécurité, l'attachement qu'il a à son fils, et l'autre, la passionnariat politique qui va finir par l'amener au socialisme. Donc pendant des années, il est double et il se cherche probablement avec une frustration qui est très très forte. Mais à l'intérieur de ça, ça reste quelqu'un de très profond et de très sérieux. Donc, il est dans une recherche très très longue, puisque jusqu'à l'âge de 50 ans, ce qui est très vieux à l'époque, il se cherche. D'ailleurs, il y a un parallèle que je fais aussi souvent, parce que je les mets en parallèle avec le général de Gaulle, qui lui aussi a dû attendre 50 ans, en juin 40, pour au fond s'affirmer. Lui aussi s'est cherché terriblement. Et je trouve que ce qui est intéressant à travers ces deux personnages, et c'est ce qui m'a plu chez Blum, c'est qu'il y a aussi des gens qui ne naissent pas tout faits pour devenir des hommes d'État, et ils le sont par un parcours qui peut être chaotique.
Le chaos entre dans la vie de Léon Blum 3 jours après la mort de Jean Jaurès. C'est la mobilisation générale.
Voici votre feuille de route. Vous devez vous présenter demain à la première heure au 60e d'infanterie à Besançon.
Alors vous m'avez déjà pris un ouvrier, maintenant c'est mon fils que vous me prenez? Mais comment je vais continuer, moi? Hein? C'est tout de même pas ce gamin qui va faire le boulot.
Ça ne durera pas, ça ne durera pas, ce verso. Les Boches sont foutus, ils reculent de partout.
On récupère l'Alsace et la Lorraine, et puis c'est terminé.
Sûrement. Au revoir, on a du boulot.
Comment la guerre de 14 a propulsé Léon Blum dans une autre vie, celle d'un homme d'État? C'est l'horizon du prochain épisode. Léon Blum, une vie héroïque. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Charles Berling et Bérangère Varluzel. Assistance éditoriale, Irène Menahem. Documentation sonore, Frédéric Martin et Romain Couturier. Mixage, Benjamin Orgeret. Prochain épisode, Le gardien de la vieille maison. Léon Blum, Une vie héroïque est un podcast original de France Inter.